Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ben, très bien, vous-même.
Oui. Alors, compte tenu du décalage horaire qu'il y avait à Sherbrooke, on a un petit peu de retard. Alors, ce qui fait que si on n'a pas le temps de finir avant la pause pub à 10h28, on va vous garder pour quelques minutes après. Est-ce que ça vous convient?
Ça me va.
Oui. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de Emerson Douillon, qui est un Haïtien, donc d'afro-descendance, qui a vécu à Montréal dans les années 50. Alors, on vous écoute. Est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce que ça avait été inspiré par le fait que cette semaine, il y a eu une rencontre entre un président blanc et un président noir? Le président blanc ayant accusé le président noir de faire du racisme à l'encontre des Blancs?
Non, je peux pas dire que ça m'inspire. C'est très rare que ce président-là, je pense avoir...
Ouais, vous inspirant.
C'est rare qu'il m'inspire.
Okay.
En fait, au cours de cette saison qui s'achève et au cours des précédentes, je vous ai beaucoup parlé de la lutte pour les droits civiques Afro-Américains et Afro-Américaines. C'est un sujet que moi, je trouve passionnant. À plus forte raison, lorsqu'on s'intéresse aux années 1960, on peut pas passer à côté. Mais c'est rare que j'ai l'opportunité de retourner la lorgnette et de parler de la situation chez nous.
Chez nous,
c'était comment... C'est vrai, c'était comment être afro-descendant, être une personne racisée dans le Québec du temps passé. En 2019, j'ai publié un livre qui s'intitulait « Jackie Robinson, un été à Montréal ». J'y parlais de Jackie Robinson, premier afro-descendant à évoluer dans les ligues majeures de baseball aux États-Unis au 20e siècle. Il a réintégré ce sport après 6 décennies de ségrégation raciale. Je me suis penché sur la saison qu'il a passée avec l'équipe de baseball professionnelle qu'on avait à Montréal à l'époque, les Royaux. Et une des conclusions à laquelle j'en arrivais, c'est que oui, Robinson entend, comme noir, anglophone et protestant, avait été accueilli à bras ouverts par les Blancs catholiques francophones et le reste de la population blanche de Montréal. Mais je mettais les lecteurs, lectrices en garde, on ne peut pas extrapoler de la manière dont il était traité l'idée que la très petite communauté noire de Montréal de l'époque ne subissait pas de préjudice au quotidien. C'était une star, il faisait gagner l'équipe de baseball de la ville. La manière dont on traite les gens, entre guillemets, importants, et pas forcément indicative du traitement réservé aux gens ordinaires. Mais je suis tombé tout à fait par hasard sur un article publié dans La Patrie en 1956 où on tendait le microphone à un immigrant haïtien qui n'était pas célèbre et on lui demandait tout simplement de nous parler de son expérience en tant que personne racisée dans le Montréal du milieu des années 1950. Il s'appelle, vous le mentionniez, Emerson Douillon, j'espère que je le prononce correctement, D-O-U-Y-O-N.
J'ai vérifié la prononciation, là, vous savez, sur les trucs, sur les outils qu'on a sur Google, et oui, vous êtes bon.
Ah, bon, oui. Parfait, tant mieux. Merci de la précision. Donc, il est né en 1929 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Il se dirigeait vers une carrière comme professeur de philosophie dans son pays lorsqu'il a reçu une bourse pour venir étudier la psychologie à l'Université de Montréal, une bourse qui a changé le cours de son existence. Il débarque dans la métropole en 1952, il a 23 ans. Il n'avait jamais entendu parler de Montréal avant d'obtenir sa bourse. Lorsqu'est venu le moment de se louer une chambre dans la métropole, on lui a conseillé de dire au téléphone à son interlocuteur qu'il était afro-descendant. Les gens ici ne sont pas racistes, mais, lui a dit un religieux de l'université, c'est peut-être lui qui a inventé la fameuse formule du « je suis pas raciste, mais 3 petits points », enfin. Donc, les gens de Montréal en 1952 n'étaient pas racistes, mais certains sont peu habitués aux étrangers. Finalement, ça s'est bien déroulé. La première personne à qui il a parlé, il a dit à la dame qu'il était noir, elle a tout simplement répondu « on n'est pas comme vous pensez, si la chambre est à votre goût, vous la prenez ». Ce fut ma première découverte positive et réconfortante de la réalité québécoise dans sa complexité, a dit Emerson Douillon. Un des grands chocs culturels qu'il a vécu s'est déroulé à l'intérieur des murs de l'Université de Montréal, où régnait, là c'est une citation, où régnait la censure et toute la pompe de l'Église catholique. La philosophie de saint Thomas d'Aquin était la pensée dominante dans les salles de classe, et Douillon, qui avait étudié des philosophes très modernes en Haïti, a vite compris qu'il valait mieux garder un profil bas en rangeant dans un tiroir tout ce qui pouvait me faire détonner dans un climat universitaire et social très conformiste. L'entrevue avec Douillon, publiée en 1956, donc dans le quotidien La Patrie, survient dans la foulée de l'affaire Otterin-Lucy. 1952, donc la même année où Douillon commence ses cours à l'Université de Montréal, Lucy est devenue la première personne afro-descendante à s'inscrire à l'Université de l'Alabama, strictement réservé aux Blancs jusque-là, comme bien d'autres universités publiques du Sud américain à l'époque. Il a fallu plus de 3 ans de procédure judiciaire pour forcer l'université à accepter l'inscription d'Autorin Lucy. Elle assiste à son premier cours le 3 février 1956 et 3 jours plus tard, il y a une grande émeute, elle a craint pour sa vie, elle a dû s'embarrer dans un local du pavillon d'éducation qui porte aujourd'hui son nom d'ailleurs. Elle a réussi à échapper à la foule en colère, mais est suspendue puis expulsée par l'université qui ne peut assurer sa sécurité. Et notre article, signé Marcel Blouin, commence ainsi. Autorin Lucy a été expulsée de l'université de l'Alabama. Cette nouvelle a fait frémir d'indignation nos bonnes gens pour qui le problème racial est simple et la ségrégation. Pourquoi j'ai de la misère avec ce mot-là? Je l'ai prononcé souvent dans ma vie.
Parce qu'il ne devrait pas exister, dans le fond.
Oui, c'est bien dit. En attendant, je suis obligé d'essayer de le prononcer correctement quand même. Ségrégation injustifiable. On crie haro sur les Américains du Sud. On est révoltés. On ne comprend pas. Mais sommes-nous donc si purs que nous puissions lancer aussi désinvoltement la première pierre? Qu'en pensent les gens de couleur? Expression utilisée fréquemment à l'époque. Et Emerson Douillon répond, la ségrégation n'existe point ailleurs qu'aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire que nous, les personnes afrodescendantes, trouvons partout la sympathie et la cordialité spontanée. À Montréal, en général, les gens se montrent corrects, mais froids et gênés devant nous. Il m'est arrivé d'entrer dans des restaurants où la présence d'un noir, fût-il haïtien et de langue française, n'est décidément pas bien vue. Et là, j'aurais souhaité une sous-question du journaliste. Est-ce que c'est les clients? Est-ce que c'est le personnel qui ne voulait pas le voir là? A-t-on déjà carrément refusé de le servir? On ne va pas plus loin, malheureusement. Je reviens à la réponse d'Emerson Douillon. Enfin, il y a l'expérience quotidienne du tramway. Avez-vous déjà remarqué que, dans un tram où un noir a pris place, les gens occupent tous les sièges autour et ce n'est que lorsque les autres sièges sont pris qu'une personne consent à s'asseoir près du noir. Donc, en général, les gens préfèrent ne pas trop s'approcher. Il racontait aussi, « J'ai déjà entendu des mères dire à leur enfant, en me montrant du doigt, « Si tu n'es pas sage, le noir, c'est pas le mot noir qui était utilisé dans le texte, je
non,
pense que vous pouvez
commence
deviner,
en N, ouais,
je
c'est
pense
ça.
Que vous pouvez deviner de quel mot il s'agit. Donc, si tu n'es pas sage, le noir va te manger. » Vous voyez d'ici toutes les conséquences que peut avoir une telle phrase, surtout si elle est répétée maintes fois. Alors, on avait littéralement des parents qui utilisaient les afro-descendants comme bonhommes 7 heures auprès de leurs enfants de manière tout à fait complexée. Ça ne les dérangeait pas que les personnes en question soient au courant. Mais il ajoutait qu'à son avis, l'afro-descendance n'explique pas tout. Il parlait de la crainte et du malaise que chacun éprouve devant l'étranger. Le Nord-Américain n'éprouve pas cette réaction seulement devant le noir, mais aussi devant les gens de la race jaune, c'était vraiment une autre époque, et même devant les Européens. Il raconte aussi une autre anecdote qui montre à quel point, à l'époque, on n'était pas habitué de rencontrer des afro-descendants, j'ai envie de dire ordinaires. Ceux qu'on avait, par exemple, à Montréal, travaillaient très souvent dans les hôtels, dans les chemins de fer. Ils vivaient généralement dans ce qu'on appelle la petite Bourgogne. Nombre de Montréalais, Montréalaises, n'en avaient pas dans leur quartier. Quand on en voyait, c'était à la télévision, des chanteurs, des danseurs dans les émissions de variété, par exemple. On en voyait aussi jouer pour les Royaux, pour les Alouettes. Un jour, disait Douillon, je me trouvais dans le tramway lorsqu'un petit gars m'aborda et me demanda en anglais une question sur le baseball. Je répondis que je parlais français. Il ouvrit de grands yeux, mais répéta tout de même sa question sur le baseball. Je lui ai répondu alors que je n'étais pas un joueur de baseball et que je m'y connaissais très peu. L'enfant sembla estomaqué. Il s'écria, « Tu parles pas anglais et tu joues pas au baseball, ben t'es pas un noir.
Mm-hmm. »
Le temps file, Francine. Je vais terminer sur un regret à propos de l'entrevue qui a été faite. Emerson Douillon, au cours de ses 4 premières années à Montréal, avait épousé une de ses compagnes de classe, qui était une Canadienne française blanche. Et je ne sais pas si le journaliste a eu peur d'aller là. Il aurait sûrement eu des choses à dire à ce sujet-là. Ça n'a pas dû passer comme une lettre à la poste, mais on ne fait que le mentionner dans l'article. Et ça vaut la peine, en terminant, de dire aussi qu'Emerson Douillon a vécu la majeure partie de sa vie au Québec après la fin de ses études. Il a enseigné à l'Université de Montréal. Il a beaucoup travaillé, notamment avec les services correctionnels canadiens, pour encourager un changement dans les façons de faire, amener le système judiciaire à s'adapter à la diversification de sa, en guillemets, clientèle à mesure que la société devenait de plus en plus multiethnique. Et il est décédé en 2016.
Alors, merci de nous l'avoir fait connaître. Effectivement, c'est peut-être la première fois qu'on se tourne vers nous pour parler d'un de ces thèmes chouchou, si j'ai bien compris. Alors, on va entamer notre conversation. Et puis, Yvan va se faire le gardien du temps. Donc, il va sûrement nous interrompre ou s'interrompre avec vous.
Oui, c'est
et
ça.
On pourra continuer quelques minutes après. Alors, ma première question, vous l'avez un petit peu... en fait, amenez vous-même en parlant de thèmes que vous aimez. Alors, quels sont les thèmes chouchous que vous avez dans vos chroniques?
Mais ça, je vous dirais que effectivement, involontairement, j'ai nommé deux grands axes. Les années 60, c'est un intérêt quand même assez récent. Je pense en avoir déjà parlé à l'émission. Je lis beaucoup les journaux des années 60. Je ne le fais pas vraiment à tous les jours là, pour suivre comme je l'ai fait à une certaine époque, mais j'en lis beaucoup. C'est une période de grande transformation dans la société à tous les points de vue. Et cette question-là, bon, ça fait depuis le début des années 2010 que je m'intéresse à cette question de Jackie Robinson, le joueur de baseball dont je parlais au tout début de ma chronique. Donc, cette question-là de la ségrégation raciale, même si j'ai beaucoup de difficultés à prononcer le mot, et je ne sais pas pourquoi.
Ah, mais là, vous êtes bon, là, ça va, continuez.
Il a fallu que je fasse une pause avant, si vous avez remarqué, pour pouvoir bien mordre dedans. Cette question-là est centrale au thème. Quand on étudie Jackie Robinson, évidemment, on déborde sur ce qui fait que, à partir au tout début, dans le monde du baseball professionnel, on permettait aux afro-descendants et aux blancs de jouer ensemble. Ensuite de ça, on a décidé d'une ségrégation raciale. Il y en avait dans la majorité des sports. Il y avait les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Donc, c'est un sujet que je trouve très, très intéressant, mais effectivement, c'est rare qu'on peut qu'on a des témoins de l'époque, n'est-ce pas, qui nous parlent au quotidien.
Gardez votre souffle, on reprend ça.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Alors, Marcel, vous pouvez maintenant aller. Vous n'avez plus besoin de retenir votre souffle. on l'a bien entendu. Alors, vous êtes prêt? Je ne sais pas si vous aviez une petite phrase à ajouter sur le même sujet.
Ben, dans le fond, juste conclure en disant que c'est rare qu'on ait des témoignages contemporains de la vie de personnes racisées. C'est quelque chose qu'on essaie de faire plus souvent en histoire aujourd'hui, recueillir par exemple les témoignages de personnes immigrantes qui nous racontent leur arrivée il y a 50, il y a 60 ans, et c'est pas que c'est inintéressant. La mémoire, c'est quelque chose dont il faut se méfier, ce dont on se rappelle des fois, les contours sont imprécis. Donc, d'avoir des témoignages, vraiment, il témoignait de sa réalité au quotidien quand il l'a fait. Donc ça, je trouvais ça très intéressant de pouvoir le partager.
Oui, c'est ça, c'est les personnes touchées, finalement. C'est ce qui vous a touché, vous.
Voilà.
C'est qu'on puisse faire parler ces gens-là par le biais de documents, j'allais dire anciens, parce qu'aujourd'hui, passer 5 ans, c'est quasi de l'ancien temps.
Avant la pandémie.
Oui, c'est ça, avant la pandémie.
Voilà.
Ouais, ça, c'est vraiment... c'est sûr, Marcel, on aurait aimé ça parler longtemps avec vous de toutes sortes de thématiques qui peuvent vous inspirer, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble. Mais on était aussi curieux de savoir, vous avez cité... la lecture de vos journaux de l'époque qui représentent une source importante. Est-ce qu'il y a d'autres sources là, qui vous animent, comme par exemple l'actualité, parce que j'imagine que vous suivez l'actualité. Alors, une réponse pas trop longue quand même, parce qu'il va falloir poursuivre, mais on est bien intéressé à voir votre façon de faire.
Bien, l'actualité, oui, ça m'intéresse, mais... c'est rare que je fonctionne en guillemets par éphéméride, n'est-ce pas, de dire j'en ai fait à quelques reprises là depuis effectivement qu'on travaille ensemble, de dire ben aujourd'hui c'est le 40e anniversaire de quelque chose, mais c'est vraiment rare que je fonctionne comme ça. Normalement, je me cherche une thématique, je me cherche une idée, et c'est rare que vraiment j'ai le, par exemple, c'est quelque chose qui se fait facilement, aller chercher dans la page Wikipédia des événements du jour, dire ah ben ça pour être bon, c'est arrivé, c'est l'anniversaire. Ça peut arriver, mais c'est rarement comme ça que je procède pour choisir mes sujets. Souvent, c'est des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai lues, des choses sur lesquelles je suis tombé par hasard, et je me dis, bon, ben là, le moment, le fruit est mûr, là, le temps est arrivé d'en parler, de faire une chronique avec ça. Il m'arrive d'ailleurs de passer à côté des éphémérides qui pourraient être évidents, mais c'est rare que je procède de cette manière-là, si vous voulez.
Bien, merci, Marcel, de vous être prêté au jeu. Merci de votre collaboration. Bien, on devrait se retrouver à l'automne.
On se le souhaite.
Bien, oui, bien, je le souhaite.
L'histoire nous le dira.
Oui, c'est ça.
Alors, d'ici là, bonnes vacances.
Bien, merci à vous aussi.